Oui, cette intervention donc conclut la session commune que nous avions avec le comité IA et Défense et César. Alors donc la conférence IA et Défense va se prolonger demain et la conférence César s'achève. Je vous demande d'accueillir donc Bertrand de Chezène pour clôturer la conférence César, la partie César donc, sur la cyber. Bertrand de Chezène est chef d'état-major du Comcyber. Voilà.
Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, il me revient l'honneur de clôturer cette édition 2019 de la conférence César au nom du Comcyber, le général Tisser, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir. Certains d'entre vous ont dû le croiser dans la journée. Il a dû rentrer sur Paris ce soir. Alors, voilà. En fait, quand on m'a dit que c'était moi qui venais faire cette conférence, j'étais un peu embêté parce que je savais que j'allais parler devant un certain nombre de personnes qui savent beaucoup plus de choses dans le domaine dont je suis censé parler que moi. Et j'étais un peu embêté de vous expliquer des choses ou de vous raconter des choses. Et puis d'un coup, j'ai su ce que j'allais vous expliquer. En fait, pour ceux qui ne sont pas militaires, voilà, moi je suis militaire, d'où l'uniforme. Et je vais vous parler des opérations militaires et de la raison pourquoi nous, on est particulièrement intéressés par vos travaux. Alors évidemment, beaucoup des travaux qui ont été décrits aujourd'hui et depuis hier, de toute façon, dans l'absolu, sont dans des TRL un petit peu jeunes avant d'être sur le terrain. Sur le terrain, quand moi je parle, comprenez bien, c'est les opérations militaires. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. En quelque sorte, je vais vous faire mon expression de besoin. Ce pourquoi j'ai besoin de votre travail, ce pourquoi j'ai besoin d'intelligence artificielle, de virtualisation, le tout associé pour le bien et le succès des armes de la France. Vous allez voir, c'est assez passionnant. J'imagine, j'espère que certains d'entre vous en tireront des idées, des projets pour la suite. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous décrire. Évidemment, le thème de cette conférence cette année, virtualisation et cyberdéfense, du coup, après ce que je viens de dire, fait un parfait écho au thème de l'année dernière, IA et cyberdéfense. Donc, si on associe les deux, on ouvre un champ des possibles qui est absolument fabuleux. On vous l'a décrit, hein, des agilités d'architecture, un gain de temps pour construire des réseaux qui eux-mêmes deviennent plus faciles à administrer. Plus sécurisable peut-être, tout en étant notablement ou probablement en tout cas moins cher, et pour une mise en œuvre de hardware plus facile, etc. Tout ça, pour nous militaires, ça fait écho à une réalité du terrain. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc, en corollaire de tous les avantages décrits, évidemment, moi, en tant que chef d'état-major du Comcyber, ce que je note, ce qui va m'intéresser, c'est que on a probablement au cœur de tous ces nouveaux moyens informatisés, numérisés, de plus en plus de moyens performants pour faire une cybersécurité efficace, parce que nos systèmes sont de plus en plus numérisés, parce qu'ils sont de plus en plus connectés. On nous pose souvent la question de savoir si la numérisation des armées, c'est subi, c'est accepté, c'est une chance, une opportunité. En fait, c'est un peu tout ça. C'est subi, parce que de toute façon, aujourd'hui, la France, le ministère des Armées ne saurait pas nécessairement s'acheter des équipements qui ne sont pas ultra numérisés, mais c'est aussi, à l'autre extrême, une fantastique opportunité, parce que ça nous ouvre un champ des possibles qui n'était absolument pas accessible aujourd'hui. En particulier, donc, au sein du ministère des Armées, associer l'intelligence artificielle et la virtualisation, ça nous permettra d'aller toujours plus loin dans cette numérisation de l'espace de bataille. La numérisation de l'espace de bataille, c'est fondamental demain. La France, par rapport à un certain nombre des ennemis auxquels elle est confrontée, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle est une nation extrêmement technologique, et il faut appuyer aussi fort qu'on le peut sur cet avantage. Et puis elle a un inconvénient, c'est que finalement, on ne s'est pas envoyé beaucoup de soldats sur le terrain. Pas tant que ça. Quand on voit le chef d'état-major des armées qui explique à la télévision qu'au Mali, sur une surface qui est, je ne sais pas combien de fois plus grande que l'Europe, on déploie 4 000 militaires. Vous comprenez bien que la numérisation, elle est désormais indispensable pour que nous restions souverains lorsque nous déployons en opération. Et donc, c'est ça qu'on va rechercher avec cette numérisation de l'espace de bataille pour toujours plus d'efficacité opérationnelle. Moi, je voudrais vous parler de trois domaines. Et là, les industriels, vous pouvez prendre des notes, parce que ces trois domaines, oui, nous avons des besoins opérationnels. Je vais tenter de vous les décrire aussi clairement que possible. Et vous comprendrez que on n'est pas très loin de tout ce qui a été expliqué objectivement. Je vais vous le dire, je n'ai pas tout compris ce qui a été expliqué cet après-midi. Il y avait des choses qui étaient un petit peu trop techniques. Il y avait des questions posées par là qui, moi, m'échappaient un peu. En revanche, ce que j'ai compris, c'est qu'on était capable de faire des choses. Ce qui, moi, sous mon prisme, m'a le plus intéressé, c'était les dernières planches. Voilà ce qu'on est capable de faire. Parce que là, on commence à réfléchir à effectivement ce qu'on va être capable de faire. Alors, trois domaines dans lesquels nous, dans les opérations militaires, on va être très directement intéressés par l'association entre l'intelligence artificielle et la virtualisation. Tout d'abord, ça a été évoqué lors de l'avant-dernière conférence en particulier, cette notion de passage à l'échelle, ce qu'on appelle dans un anglicisme bien pensé, la scalabilité. Sur Word, il y a des petits points rouges en dessous, là, comme ça, pour dire que ce n'est pas un mot français. Mais on le comprend. En fait, il faut bien avoir en tête que la surface numérisée du ministère, et donc la surface qu'au ComCyber, on va devoir être capable de défendre, elle est colossale. Elle est colossale, d'abord parce qu'elle est globalement répartie sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi parce qu'elle s'étend jusque sur des théâtres d'opération, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, jusqu'au Mali. Et puis, sur le Mali, elle est partout. Cette surface physique, par opposition au cyberespace, etc., elle est absolument colossale. Et en plus d'être étendue comme peut-être il n'y en a pas tant que ça, elle a des particularités qui lui sont uniques. D'abord, elle met en œuvre des systèmes qui sont propres au ministère des Armées, et en particulier des systèmes qui font la guerre, évidemment. Et puis, alors il y a une particularité de nos infrastructures, sur laquelle je vais revenir un peu plus tard, mais qui est fondamentale dans tout ce que vous pensez aujourd'hui, dans toutes vos réflexions. Cette particularité sur les théâtres d'opération, on a des réseaux contraints. N'oubliez jamais ça, c'est fondamental. Quand on pense intelligence artificielle, quand on pense virtualisation, il faut penser au fait qu'on a des réseaux contraints sur les réseaux d'opération. Ça veut dire quoi? De façon extrêmement pratique, ça veut dire que quand un soldat aura une radio contact, radio IP, sur le théâtre d'opération, il ne faudrait pas que sa radio IP, elle envoie que des logs de sécurité. Parce que ce n'est pas ça son métier. Mais il ne faudrait pas que le réseau, le petit réseau qui lui est alloué, il serve à ça. C'est là que l'intelligence artificielle et la virtualisation pourront nous aider. C'est aussi dans une sécurisation au niveau de la donnée. J'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, évidemment, c'est dans tout ce qui est résilience des architectures. La résilience, elle est fondamentale pour nous. En fait, si j'en viens au premier de ces points pour un tout petit peu étayer ce que je viens de dire, au passage à l'échelle, et vous allez comprendre pourquoi je dis que tout ça est bien fondamental pour nous, l'association de l'intelligence artificielle et la virtualisation nous permettra ce passage à l'échelle, d'accord? Comment? Et là, notez, l'automatisation de fonctions possibles à automatiser. Ça paraît bête à dire, mais aujourd'hui on perd trop de temps, beaucoup trop de temps. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des outils aujourd'hui qui vont nous permettre ce genre de choses d'automatiser, etc. Cette automatisation de tâches récurrentes qui nous épuise, qui dévalorise le travail de nos experts cyber sur le théâtre d'opération, ça le dévalorise. Les gens ne se sentent pas utilisés à leur niveau, donc ils ne sont pas motivés, donc ils s'en vont, etc., etc. Tout ça, c'est fondamental pour nous. L'automatisation, c'est aussi, en particulier, la génération de cartographie de réseaux qui sera automatisée. Ça aussi. Vous savez bien, j'imagine que dans vos sociétés, dans les organismes que vous représentez, c'est un problème récurrent. On ne sait pas faire proprement des cartographies de sécurité pour faire l'analyse du risque. La réalité de la menace cyber, on ne sait pas le faire. Tout ce qu'on saura automatiser dans le domaine sera du temps gagné, sera de l'efficacité gagnée. Nous, comme cyber, c'est très simple. Notre boulot, c'est de faire une analyse du risque et d'être capable de présenter l'analyse du risque la plus objective au commandant de l'opération. Pas plus que ça, mais le socle de cette analyse de risque, c'est d'avoir évidemment une cartographie des réseaux à sécuriser exhaustive. Ensuite, évidemment, ça a dû être évoqué un certain nombre de fois, je n'en doute pas, même si certaines choses m'ont forcément un peu échappé, pardon, là, tout ce qui est détection de signaux faibles. Bien sûr, la détection de signaux faibles. Aujourd'hui, au Comcyber, on considère qu'on n'a pas été attaqué, on n'a pas eu la grande attaque au sein du ministère. J'espère que c'est vrai. Mais peut-être qu'un jour, si on a des super algorithmes de signaux faibles, on se rendra compte que certains se sont installés sur nos systèmes, etc. Je ne le souhaite pas, hein, bien sûr. Mais on a besoin de vous pour être capable d'empêcher que ça arrive. Parce qu'évidemment, ça n'est pas arrivé. Et puis, bien sûr, alors là, je me projette sur les théâtres d'opération. La virtualisation et l'intelligence artificielle, ça va nous permettre de créer des objets comme du sandboxing sur des réseaux qui sont en service, mais de séparer les variables de façon intelligente, suffisamment intelligente pour pouvoir d'un côté détonner ce qu'on soupçonne être une attaque et en même temps continuer les opérations. Parce que, encore une fois, mon problème à moi, c'est de continuer les opérations. Pourquoi je dois produire une analyse du risque en permanence? C'est parce qu'on me demande que, malgré une numérisation farouche de tous nos systèmes, ces systèmes-là soient capables de continuer à faire la guerre tout le temps, quand j'en ai besoin. C'est bien ça à quoi vous allez nous aider. Mais ce n'est pas tout. Parce que, avec l'intelligence artificielle et la virtualisation, vous allez nous permettre le Graal du Comcyber, la capacité d'hyperviser l'ensemble de la surface numérique du ministère. Hyperviser, c'est-à-dire la mettre en perspective avec tout ce qui est ces outils de cartographie, etc., la mettre en perspective du besoin opérationnel, savoir quand, si tel serveur est attaqué, alors c'est telle frégate qui ne va pas pouvoir appareiller, c'est dans 5 jours telle rafale qui ne va pas pouvoir décoller, etc. C'est ça que vous allez nous permettre, c'est à ça qu'il faut penser. Et évidemment, tant que possible, nous appuierons sur des technologies duales. Évidemment. Parce qu'on ne peut pas se permettre de développer des technologies en propre. En revanche, on aura toujours besoin de la DGA, et probablement de plus en plus imbriquée avec nos activités opérationnelles au sein du Comcyber, pour une raison bien simple, c'est qu'on aura toujours ces outils du haut à adapter à notre besoin opérationnel, à nos besoins propres. Nos besoins propres, je le rappelle, qui sont effectivement très spécifiques. Quand on voit les questions qui étaient posées tout à l'heure sur les nœuds, les graphes Touvec, etc. Oui, enfin, c'est quand on a des réseaux infinis qu'on se pose ce genre de questions. Parce que quand on a les réseaux qu'on est capable, nous, de manier sur les théâtres d'opération, alors c'est à d'autres problématiques qu'il faut penser. Il n'empêche que la défense, il faut quand même l'assurer. Il y a une vraie question derrière tout ça. C'est aussi pour ça qu'il faut se féliciter du coup de projecteur donné aux activités de recherche grâce à ce genre d'événement, grâce en particulier au MINARM au travers du PEC. Donc, voilà, toutes ces initiatives vont évidemment dans le bon sens. Excusez-moi, j'avais un peu perdu le fil, je me suis un peu exalté. Sécurité de la donnée opérationnelle, c'est mon deuxième point. Sécurité de la donnée opérationnelle. Alors, la problématique opérationnelle, en fait, à exposer, elle est plutôt très très simple. Ce que je veux, aujourd'hui, mon boulot, c'est de garantir que l'information est acheminée en sécurité et en sûreté d'acheminement. Dit comme ça, c'est quand même effectivement extrêmement simple. À faire, c'est quand même vachement compliqué. L'acheminement des informations opérationnelles. Ces informations opérationnelles sont parfois d'importance vitale. Lorsque mon soldat sur le terrain, il enverra sur sa radio contact, je suis face à des ennemis qui me tirent dessus, j'ai besoin de soutien aérien par un hélicoptère, il vaut mieux que cette information elle arrive. Là, on rigole plus. Peut-être qu'on a besoin de moins de défense dans ces cas-là, peut-être on a besoin de moins de sécurité, je ne sais pas. En tout cas, il faut que l'information elle arrive, et je sois sûr qu'elle arrive. C'est ça qui est important à ce niveau-là. Ces opportunités qui sont offertes par l'IA et la virtualisation, à ce moment-là, elles sont fantastiques. Pourquoi ? Parce que la donnée, si elle est sûrement acheminée, si elle est acheminée en sécurité, eh bien, idéalement, plutôt que de faire la sécurisation comme on la faisait avant, aujourd'hui aussi en fait, on va pouvoir sécuriser la donnée grâce à vous. On va pouvoir aller jusqu'à dire cette donnée, elle doit absolument passer d'un endroit A à un endroit B. Elle est prioritaire surtout. Elle est chiffrée de telle façon pour que personne puisse l'intercepter dans tel laps de temps, etc., etc., etc. C'est ça que vous allez devoir nous offrir. On a besoin de ça, c'est clair. Il ne faudra plus penser la sécurité à l'échelle des réseaux, parce que ces réseaux, ils ne supportent pas la sécurité aujourd'hui qu'on essaye de leur imposer. C'est ça qui sera le game changer, indiscutablement. Ce game changer, il passera par l'intelligence artificielle, il passera par la virtualisation. C'est une certitude. Et grâce à vos travaux, en fait, progressivement, on va y arriver. Mais il va falloir les orienter. C'est ce que je suis un peu en train de faire, là. Et c'est ça qui est chouette. C'est cette opportunité qui nous est donnée. Merci de l'accueillir. Échanger des informations opérationnelles, comme je disais, en sécurité, en sûreté d'acheminement, c'est ce que nous donnera la sécurisation de l'information au niveau même de la donnée. Et ça, c'est réellement fondamental. Ensuite, dernier point sur lequel je vais vous donner des idées. Après ça, les autres, vous les aurez toutes seules. Garantir la résilience des architectures de théâtre. Ça aussi, c'est particulièrement important. Notamment parce que mon pauvre soldat, il doit pouvoir être certain que son information est acheminée. Mais historiquement, la sécurité est construite en profondeur, par des couches successives. Ah là, maintenant, évidemment, avec l'IA et la virtualisation, on va être capable de faire une sécurité ciblée. Ça rejoint un petit peu mon point précédent. Et ça, le système créera sa propre sécurité. C'est ça qu'il va falloir anticiper. Nous avons certainement là une voie à explorer qui est fantastique. Fantastique pour nous permettre de faire transiter de l'information moins coûteuse en termes de bande passante sur les théâtres d'opération. Encore une fois, quand on est en métropole, c'est facile, hein, les réseaux sont infinis. Moi, j'aime bien faire cependant au mieux. Dans 10 ans, les réseaux IP, radio IP, sur les théâtres d'opération, ce sera 2 kilobits. Voilà. Bon, mais avec ça, il faudra faire tout circuler. Il y a des réflexions, Il y a des réflexions. Possibilité de sécurisation qu'apporte la virtualisation des réseaux. Minimiser l'impact d'une attaque sur le hardware ou d'autres réseaux virtuels. C'est fondamental. Parce que aussi, quand on est sur un théâtre d'opération, quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, la logistique. La logistique, c'est une vraie problématique. Si je peux emporter une palette d'équipements hardware plutôt que 5, j'ai gagné une partie de la guerre. Réellement. Parce que si j'ai une palette d'équipements informatiques au lieu de 5, dans mon avion, j'ai plein d'autres choses qui servent à faire la guerre. C'est ça aussi que vous allez nous apporter. Virtualisation et IA au profit de la cybersécurité, là je lis complètement, permettent d'imaginer des solutions plus agiles. Tiens, c'est marrant, je n'avais pas encore utilisé ce buzzword. C'est agile, c'est indispensable, des réseaux de théâtre qui se reconfigurent. Ça n'est pas que un buzzword du tout, c'est une réalité opérationnelle. Et c'est comme ça qu'il faut vraiment que vous la considériez aujourd'hui. Les exposés qui ont été prononcés au cours de cette conférence César sont autant de témoignages qu'il y a un formidable élan dans ces technologies, en France, ailleurs, éventuellement, mais aussi en France, et en ce qui me concerne, personnellement, de manière préférentielle en France, portée par la DGA en particulier, au profit d'une plus grande sécurisation de nos moyens numérisés militaires. Alors voilà, c'est bien pour ça que je tiens à remercier tout le monde. Alors évidemment, la DGA, je ne la remercierai jamais assez d'être à notre service. C'est réellement l'énergie de chacun d'entre vous qui porte ce projet. Ce projet, il est ambitieux. La transformation numérique du ministère, c'est quelque chose dont on entend souvent parler, malheureusement depuis trop longtemps, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, ça fait tellement longtemps qu'on entend parler que les gens en sont lassés. Ceci dit, on est juste au début de cette transformation numérique du ministère. Vous avez entendu parler du projet Scorpion, vous avez entendu parler du projet SCAF, vous avez entendu parler des nouvelles frégates. Partout, on parle d'une transformation numérique. Et on n'a pas le choix, de toute façon. On est obligé. Je me permets de renouveler donc les remerciements que Mme Sclafer exprimait lors de son discours d'introduction. Remerciements adressés à tous ceux qui ont œuvré pour le succès de cette édition 2019. Il est où, le président ? Il s'est caché, il est parti. Ah, il est là. Donc, l'ensemble du comité de programme et son président, M. Martin, l'ensemble des orateurs qui se sont succédés. Objectivement, j'en ai ri parce que c'est vrai que j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. Hein. J'ai quand même compris certaines choses. Et franchement, c'est bien, quoi. C'est cool. C'est pas mal. Les partenaires César qui ont rendu cet événement possible, la DGNUM, bien sûr, le PEC, l'ANSSI, l'ensemble des sponsors industriels. Alors, il y a souvent une planche là, qui passe avec l'ensemble des sponsors industriels. C'est chouette, c'est bien, c'est important. C'est important parce que tous ces gens-là, on va les retrouver après ça dans nos travaux, dans tout ce que j'ai pu vous décrire. Et bien sûr, vous, tous les gens qui sont venus se passionner. Alors, tous les ans, il y a toujours plus de public, apparemment. Je suis désolé, hein, moi, c'est la première fois que je viens à cette conférence César. Je reviendrai, hein. Donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'année prochaine. J'espère qu'on sera encore plus nombreux, que l'amphi sera complètement rempli. Enfin, de toute façon, je vous rassure, pour ceux qui sont venus ici, on ne voit rien. Donc je me dis que j'ai un amphi plein devant moi. Et puis rendez-vous pour la 27e édition de la conférence César.